vais lire un récit dans l'évangile selon Matthieu. On voit deux histoires qui s'entremêlent. La guérison d'une femme qui souffre d'une hémorragie depuis plus de 12 ans, ou plus de 12 ans. Et le récit de la résurrection d'une jeune fille de 12 ans. Nous trouvons ce récit en Matthieu 9, en Marc 5, en Luc 8. Je vais lire le texte de Matthieu, qui est plus synthétique. Matthieu 9, les versets 18 à 26. Mais je vais juste lire la dernière partie du verset qui précède, le verset 17. À la fin du verset 17, Jésus dit « On met le vin nouveau dans des outres neuves et tous les deux se conservent. » J'arrête cette lecture un moment pour une simple remarque, ça situe le contexte. Le vin évoque la joie, souvent, dans la parole de Dieu. Le vin nouveau évoque sans doute donc une joie nouvelle, une bonne nouvelle bien sûr. La joie de la bonne nouvelle, c'est bien sûr la joie de la vie. La vie apportée par Jésus, Luc a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Matthieu situe donc le contexte des deux récits que l'on va voir. Juste après ces paroles qui annoncent la bonne nouvelle, le vin nouveau, la nouvelle de la vie. La nouvelle, on peut avoir de la vie qui éclate comme le vin nouveau en plein jour avec cette guérison et cette résurrection. Donc je reprends la lecture au verset 18. Comme Jésus leur disait ces choses, vous voyez, c'est comme il leur dit ça, tout à coup, il y a juste à poser ces deux histoires qui nous sont racontées. Voici un chef de synagogue s'étant approché, lui rendit hommage à Jésus, disant « Ma fille vient de mourir. Mais viens et pose ta main sur elle et elle vivra. » Et Jésus, se levant, le suivit, ainsi que ses disciples. Voilà, ça nous est présenté comme Jésus qui obéit à cette injonction. Et voici une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, une hémorragie, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait, mais en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Et Jésus s'étant retourné et la voyant dit, « Et bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et la femme fut guérie dès cette heure. Et Jésus, étant arrivé à la maison du chef de synagogue, et voyant les joueurs de flûte et la foule qui faisait un grand bruit, c'était la liturgie du deuil à l'époque, dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se riait de lui. Et lorsque la foule eut été mise dehors, il entra et prit sa main, et la jeune fille se leva. Et le bruit s'en répandit par tout ce pays. En introduction, je vais lire l'auteur Marion Muller-Collard qui dit « Ce morceau d'évangile touche au plus intime. Ce sont deux guérisons. L'une s'entremêle au mal de la première et Jésus, j'ose le dire, n'est pas seul à bord. Le cri d'un père met en route Jésus. En chemin, une femme touche Jésus. Arrivé chez Jaïrus, Jésus touche l'enfant. Le sang s'arrête de couler pour lui, il se remet à couler dans les veines de l'autre. » Fin des citations. Dans les trois évangiles, Matthieu 9, Marc 5 et Luc 8, on peut lire la même double scène comme deux récits enchâssés, la guérison d'une femme qui souffre d'hémorragie et le retour à la vie d'une jeune fille. Dans les trois récits, les trois évangélistes, le vocabulaire est le même, beaucoup d'expressions sont identiques, il y a une petite différence. Matthieu donne beaucoup moins de détails que Marc et Luc, donc ce qu'on a lu, le texte est beaucoup plus court. Matthieu va à l'essentiel. Il ne donne, par exemple, pas le nom du chef de la synagogue que l'on connaît par les autres évangélistes, c'est Jaïrus. Il ne mentionne pas, Matthieu, les spectateurs privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, qui sont cités par les autres évangélistes. La fille de Jaïrus est déjà morte dans le récit de Matthieu, alors qu'elle est au plus mal au début du récit dans Marc et Luc, et après elle est morte, mais au début elle est au plus mal. Dans les versets 21 et 22 que nous avons lus, le verbe « guérir » ou « sauver » est répété trois fois. C'est dire si Matthieu, lui, il insiste et veut qu'on entende que la femme est sauvée ou guérie. Verset 21, la femme dit en elle-même « si seulement je touche son vêtement, je serai guérie ». Et Jésus, s'étant retourné et la voyant, dit « et bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie ». Et la femme fut guérie. Et guérir, c'est littéralement sauver. Cinq remarques. La première, guérison et salut sont deux mots proches, mais il y a sans doute une nuance, bien sûr. Dans les versets qui précèdent ces textes, versets 15 à 17, il est parlé de l'époux et de vin nouveau et des outres. Il n'est pas question de guérir ou de restaurer des vieilles outres, c'est-à-dire des vieilles pots pour récipients où on peut mettre le vin. Il n'est pas question de guérir et de restaurer une outre percée, mais bien d'utiliser des outres neuves, quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. Il s'agit d'insister sur le salut promis qui dépasse la seule guérison du corps de cette femme. Il en est de même pour Jaïrus. Il ne s'agit pas simplement d'imposer les mains tel un guérisseur, mais de sauver, de donner une vie nouvelle dans une outre neuve, quelque part. D'ailleurs, de donner même la vie aux vivants. Dans les versets 23 à 25, on pourrait dire que Jésus a quand même de l'audace pour dire que cette jeune fille dort. On comprend que Jésus ne fait pas ici un constat médical. Au verset 18, le père annonçait que sa fille vient de mourir. Au verset 23, la liturgie de deuil a déjà commencé avec les joueurs de flûte, la foule qui fait un grand bruit. Pour l'entourage, la mort a déjà vaincu. Mais avec Jésus, la mort n'a pas le dernier mot. Donc Jésus interrompt la liturgie du deuil, il chasse dehors les joueurs de flûte, et ceux qui doutent et les moqueurs. Et Jésus répond à la demande, et donc aussi à la foi bien sûr, du papa de Jaïrus, comme il a répondu favorablement à la demande de la femme malade. Au verset 25, le geste de Jésus est banal. Il saisit la main de la jeune fille, morte. Alors les deux autres évangélistes, Marc et Luc, ajoutent que Jésus a une parole. Il lui dit, jeune fille, je te dis, lève-toi. Mais ici, dans le récit de Matthieu, il n'y a qu'un geste. Un geste banal, simple, mais délicat à la fois. C'est une main qui est saisie. Qui relève. Peut-être que cette main, elle nous a touchés un jour, et peut-être plusieurs fois, pour nous relever. Cela suffit pour que Jésus relève. Cela suffit pour donner vie. Alors la nouvelle se répand, bien sûr, tout est nouveau. Et cette bonne nouvelle, c'est la nouvelle de la vie. C'est la vie qui se répand. C'est le dernier verset qu'on a vu. Et parmi les personnes que nous côtoyons, que ce soit à l'école, dans notre travail, dans notre voisinage, il y a peut-être des personnes qui ressemblent à cette jeune fille qui attendent. Qui attendent quoi? La vraie vie. Qui attendent le salut. Et notre rôle est peut-être comme le père Jairus d'appeler Jésus pour cette personne que nous connaissons qui attend la vraie vie. Deuxième remarque. Au verset 22, Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Alors moi je crois que c'était Jésus qui sauvait. Et Jésus dit, c'est ta foi qui t'a sauvée. D'abord, elle n'est pas sauvée par son geste de toucher. Même si elle s'est dit en elle-même, au verset 21, « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. » Elle n'est pas sauvée par ce qu'elle a pu faire. Jésus dit clairement qu'elle est sauvée par sa foi. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit. Et pourtant, Jésus dit « Ta foi t'a sauvée. » Je cite Marion Miller-Collard encore une fois, la foi est comme un partenariat entre Dieu et nous. Jésus vient la révéler, la relever. Et puis je vais citer quand même la parole de Dieu qui dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 2, qui, l'auteur nous dit, mais gardons les yeux fixés sur Jésus, Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Notre foi en Dieu nous sauve, mais au final, c'est bien Jésus qui nous sauve, bien sûr. C'est lui qui fait naître la foi. C'est un mystère, hein, tout cela. C'est le salut est difficile à comprendre pour nous. Il reste une part de mystère dans ce salut. Mais en tout cas, fixons les yeux sur Jésus qui fait naître cette foi. Troisième remarque. Ce texte nous invite à contempler deux manifestations de foi qui sont extraordinaires. Qu'elles sont tellement magnifiques que même cette foi émeut le cœur de Jésus et provoque une réponse d'ailleurs de sa part immédiate. La foi de Jairus d'abord. Il est dit, Jésus, ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. On pourrait dire que c'est une foi qui est vraiment ferme et qui oblige même Jésus, qui oblige Dieu. Est-ce que ce genre d'obligation est apprécié par Dieu? On peut le penser. L'autre témoignage de foi de la femme, si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. On peut dire que Jésus se laisse faire de bon gré par la foi de ces deux personnes. Ce que Dieu n'admet pas, par contre, c'est que nous le tentions par manque de foi. Ce fut le cas de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui demanda une preuve de la naissance de son fils à l'archange Gabriel. Et en Luc 1, Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrais-je cela ?» Et l'archange lui répond, « Moi, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. Et voici que tu vas être réduit au silence. » Et sans pouvoir parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront. Et c'est ce qu'il advint, Zacharie fut muet jusqu'à la naissance de son fils. Jésus nous dit, dans l'Évangile, mais demandez, demandez, vous recevrez, heurtez, frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Une quatrième remarque. C'est un court texte que j'ai lu. Il y a trois personnes qui peuvent retenir notre attention, en plus de Jésus, bien sûr. Jairus. Une femme inconnue, on ne connaît pas son nom. Et puis la fille unique de Jairus, qui a 12 ans. Ces personnes sont d'âge différent. Par exemple, le père et la fille de 12 ans. Jaïrus et la femme sont des personnes de milieux différents. Très différents même. Jaïrus, on connaît le nom grâce à l'évangile Marc et Luc, est un chef de synagogue. C'est un juif très pratiquant. La femme, on ne connaît pas son nom. On ne sait pas si elle est pratiquante ou pas. On sait seulement qu'elle est gravement malade, qu'elle n'en peut plus et qu'elle est prête à tout pour guérir. Jaïrus, c'est un chef de synagogue. Et pourtant, il n'a pas peur de se montrer humble et confiant en Jésus devant la foule. Et pourtant, on sait que les pharisiens n'aimaient pas Jésus. Donc, il en fallait, lui, du courage, chef de synagogue, pour être rempli d'humilité et demander à Jésus et reconnaître devant tous que seul lui pouvait répondre à ses besoins. C'est vrai que quand il s'agit de son enfant, parfois on est capable de dépasser des barrières. Hein. Mais en tout cas, là, il n'était pas craintif du tout hein, pour oser, en tant que chef de synagogue, de demander ça à Jésus. Quant à la femme, c'est différent. Elle agit dans la discrétion. On pourrait dire en catimini. Peut-être avec une foi un peu magique, elle se dit, si je touche son vêtement, comme si c'était toucher le vêtement qui allait de façon magique la guérir. Mais cependant, elle croit. Pourtant, la foi n'est pas du tout magique. Par exemple, ce n'est pas parce que je vais prier avant de partir en voiture pour un voyage que je vais prier pour que Dieu nous garde d'accident, que je n'aurai pas d'accident. Ce n'est pas, c'est pas la magie. La foi, c'est quoi ? C'est une rencontre avec Jésus. La foi, c'est une rencontre avec Jésus. L'épître aux Romains, Paul nous dit aux Romains 10, la foi provient de ce que l'on entend de Jésus. Avoir une communication avec Jésus, entendre sa parole, recevoir sa parole, être relié avec Jésus, communique la foi. Que pouvons-nous retenir de ces personnages différents, d'âges différents, de milieux différents? Eh bien, on peut retenir que Jésus peut agir dans toute vie. Que Jésus peut agir dans toute personne et à tout âge. Que Jésus peut agir dans toute personne, quelle que soit son origine, sa condition, son milieu, sa culture. Il peut agir dans une personne qui est hardie, comme Jaïrus qui ose, comme timide ou craintive, comme cette femme. Il peut agir partout et à n'importe quel moment. Cette constatation peut d'ailleurs nous dérouter parfois. Mais on ne peut pas limiter l'action de Dieu à notre façon de penser. Et Dieu sait bien ce qu'il fait, et comment il le fait, et pourquoi il le fait. Donc on peut retenir que Dieu est toujours disponible pour l'homme, pour la femme, dans le besoin. Il y a un besoin, Jésus se rend disponible. Pour Dieu, chacun est important. Que ce soit un chef prestigieux, ou une femme anonyme dans sa souffrance. Dieu nous attend toujours et Dieu nous accueille avec douceur et attention. Une cinquième et dernière remarque. Dans ce récit où on trouve donc trois personnages, trois exemples de la miséricorde du Seigneur. Premier personnage, le chef de la synagogue, s'approche de Jésus. Il s'approche de Jésus. En se prosternant devant lui, et notons, il prend la parole. Ma fille vient de mourir, mais viens, elle pose ta main sur elle, elle vivra. Deuxième personnage, la femme, s'approche aussi de Jésus, mais elle ne dit rien. Sans rien dire. Ce qu'elle se dit, le texte le précise, c'est en elle-même, donc ce n'est pas autre voix. Par contre, elle touche la frange de son manteau. Donc le premier s'approche et parle. La deuxième personne s'approche et ne dit rien, mais touche, fait quelque chose. Et la troisième personne, la jeune fille, elle est morte. Elle ne s'approche pas, elle ne dit rien et elle ne fait rien. Pourtant, cette jeune fille se relève. Sa main étant dans la main du Seigneur. Jésus l'a rappelé à la vie pour répondre à la foi de son père, qui est rongé par la tristesse. Donc les modalités changent, mais c'est toujours la même miséricorde que Jésus met en œuvre. Et cela se vérifie d'ailleurs dans chacune de nos vies, je pense. Parfois, notre foi est peut-être hardie, comme Jaïrus, et peut-être on intercède pour une personne qui est gravement malade. Et on a l'audace de demander au nom de Jésus. Et on a l'audace d'intercéder et de dire, ben, Jésus, mais viens, guéris. Parfois, notre foi est beaucoup plus timide. Parfois, on ne trouve pas les mots pour dire à Jésus notre confiance. Et parfois, ce que l'on dit, c'est pas autrefois, c'est en nous-mêmes, comme cette femme. Et finalement, c'est nos gestes, nos comportements qui parlent pour nous. Et puis, avons-nous vécu parfois des circonstances comme cette jeune fille où on ne s'est pas approché de Jésus parce qu'on ne pouvait pas et qu'on n'a même pas parlé? Et que Jésus agit seul, comme s'il faisait les demandes et les réponses, lui seul. On a pu parfois sentir qu'une force nous a relevés, alors que nous, on n'avait rien demandé. Ça vous est peut-être arrivé, que vous n'avez pas prié, puis que Dieu vous a délivré, vous a accordé une grâce incroyable. On n'avait rien demandé, mais Jésus était là. Et on a expérimenté l'amour du Sauveur et la puissance de sa main. La puissance de sa main en protection, peut-être aussi un salut pour nous sauver d'une situation et qu'on n'avait rien demandé. Mais Jésus nous aime. On peut dire peut-être à ces moments de pure grâce, peut-être qu'on peut se dire, mais alors peut-être quelqu'un a prié pour moi dans ces circonstances. Je ne le sais pas, mais moi je n'ai pas prié, mais peut-être quelqu'un a prié pour moi. Comme Jaïrus, la fille a pu dire ça. Hein. Son père a prié. Mais cette prière, cette intercession de foi qui nous a valu un surcroît de vie, comme pour cette jeune fille, restera inconnue pour nous, un mystère, jusqu'au moment où peut-être tout sera réveillé dans le ciel, on ne sait pas. Nous avons été l'objet de beaucoup de prières durant toute notre vie, je pense, de beaucoup de personnes, même de personnes que l'on ne connaît pas. La mesure du Seigneur est toujours débordante. On n'a pas une conscience de tout ce qui se passe, de tout ce que Jésus fait pour nous en protection, en salut, même pour nos enfants. Combien de circonstances où ils peuvent avoir d'accidents, où ils sont gardés. Et on n'est pas là, on ne mesure pas tout ce que Dieu fait pour nous en grâce. Dieu nous donne dans sa liberté souveraine même ce que l'on ne sait pas demander. Dieu travaille pour notre bonheur au-delà de même de nos prises de conscience. C'est extraordinaire et Paul s'est émerveillé de cette générosité de Dieu. Aux Corinthiens, Paul dit de Corinthiens 9, Dieu a le pouvoir de nous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Dieu a ce pouvoir et le souhait en plus. Dieu nous donner en abondance de toutes sortes de bienfaits, mais des sortes de bienfaits, mais là. C'est extraordinaire. Aussi, approchons-nous du Seigneur de la vie avec cette audace, peut-être de Jaïrus, avec l'espérance que cette femme avait et que l'Esprit peut mettre en nous. Et puis, des fois, même si on ne s'approche pas, Jésus vient prendre la main. Alors, osons, comme Jairus, implorer Dieu pour ceux que nous aimons. Osons toucher la frange du vêtement de Jésus et osons lui demander son aide pour corriger un aspect de notre vie, comme cette femme. Elle avait une demande par rapport à elle-même. Peut-être on peut toucher Jésus pour dire il y a quelque chose qui, dans ma vie, ne va pas, ou que j'aimerais échanger. Cette femme vient par derrière, parce qu'elle se sent indigne, parce que cette maladie, selon la loi, la rend impure. Donc elle vient par derrière sans être vue, évidemment, par Jésus. Elle vient par derrière, donc sans pouvoir même la possibilité de rencontrer le regard de Jésus. Elle vient par derrière, donc sans pouvoir dire « Ah, ben Jésus a fait un soin en moi ». Non, elle vient par derrière, c'est-à-dire que d'avance, elle accepte une guérison, qu'on peut dire, anonyme. Et sa foi lui dit qu'une force sortira de Jésus, en réponse à son geste. Son espérance, c'est quoi? C'est la bonté de Dieu. Son espérance, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu qui donne abondamment. Une espérance à la grâce de Dieu, même si on est comme elle, une femme sans nom, sans visage, même si comme elle, on est perdu dans la foule, chahuté par la foule, même si ensuite, comme elle, on disparaît de la foule. C'est l'expérience que nous faisons parfois dans la prière. Des fois, on n'a pas l'impression de pouvoir croiser le regard de Dieu. Des fois, on a comme l'impossibilité de ne pas sentir que Jésus nous entend, nous écoute et nous regarde et nous reconnaît. Peut-être qu'on peut dire, mais Dieu ne comprend pas. Mais venons, même par derrière, à Jésus, comme cette femme. Venons à Jésus. Et dès que nous approchons de lui avec foi, on peut être sûr et certain de son intérêt pour nous. Même si Jésus semble vouloir poursuivre son chemin, déjà, il se retourne, comme le signale notre évangéliste, pour dire « Qui m'a touché ?» Osons, comme cette jeune fille de 12 ans, garder dans notre main la main de Jésus qui m'a relevé, qui m'a donné vie. Un mot pour conclure. Jésus est venu pour donner vie, mais une vie nouvelle, en abondance. Il est toujours disponible, comme je l'ai dit, pour l'homme et la femme ou l'enfant qui est dans le besoin. Pour Dieu, chacun est important. Alors, comme Jairus, implorons Dieu, parlons à Dieu, implorons, intercédons pour ceux que nous aimons. Comme cette femme, venons au contact de Jésus pour corriger peut-être un aspect de notre vie. Comme cette jeune fille, gardons dans notre main la main du Seigneur qui nous relève.